Oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, bon, merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être là à cette tribune paritaire pour confronter nos regards, parce que je pense qu'on tombera d'accord sur pas mal de choses, j'allais dire sur le fond. Moi, je vais m'en tenir à quelques éléments chiffrés de contexte et puis rappeler sur la réalité, ce que j'appelle la réalité fiscale du crédit impôt recherche, quel est le regard de Solidaires Finances Publiques, notamment au travers des pratiques des vérificateurs qui quotidiennement sont confrontés au crédit impôt recherche. Je le remonte. Deux, trois mots déjà pour dire que le crédit impôt recherche, ce n'est pas un objet hors sol. Il s'inscrit dans un système fiscal dont on sait qu'il est marqué par une grande complexité, une grande instabilité, une grande injustice. Donc, on rappellera juste que la fiscalité, normalement, ça permet de financer l'action publique, de corriger les inégalités et d'inciter à modifier les comportements dans un sens vertueux, efficace, sur le plan économique, social, écologique, que sais-je. Aujourd'hui, si on fait... Je parle plus fort, j'articule, mais je voulais juste énoncer quelques évidences, mais pour rappeler que le crédit impôt recherche s'insère donc dans ce système fiscal complexe, instable, injuste, qu'il est une des principales niches fiscales, la deuxième si on évalue le coût budgétaire tel qu'il ressort des lois de finances. En réalité, il y a d'autres mesures dérogatoires plus coûteuses pour les grands groupes, on pourra y revenir éventuellement, et qu'il est assez illustratif des travers du système fiscal, à la fois parce qu'il est coûteux, il fait l'objet d'optimisation et de fraude, il est mal évalué, comme de nombreuses niches fiscales. Je rappelle au passage que l'ensemble des niches fiscales, c'est 80 milliards d'euros de manque à gagner, auxquels il faut ajouter des mécanismes dérogatoires très coûteux, qui profitent aux grands groupes. C'est intéressant d'y revenir, d'avoir ça en toile de fond quand on parle du crédit impôt recherche, et que le manque à gagner global de l'ensemble de ces dispositifs est supérieur à 100 milliards d'euros. C'est important dans la question de la redistribution des richesses et du financement de l'action publique. Quand on voit la comédie qui a été celle de ces dernières semaines où, pour trouver 4 milliards d'euros, il a fallu durcir les plans de rigueur tels qu'ils existent, quand on regarde la question des niches fiscales et du manque d'évaluation, on peut se poser un certain nombre de questions. Et précisément, on y reviendra, la question de l'évaluation de l'ensemble des niches fiscales et spécialement du crédit impôt recherche, elle est posée, puisqu'on ne peut pas prôner une politique de rigueur et de réduction de la dépense publique comme le font les gouvernements successifs, sans s'interroger sur le manque à gagner. Alors, quelques chiffres sur le crédit impôt recherche plus spécialement. Ça a été dit, plus de 5 milliards d'euros de manque à gagner par an depuis un certain temps. Je rappelle que, par exemple, en 2003, le coût budgétaire était inférieur à 500 millions d'euros. Donc, il y a eu une explosion du coût budgétaire du crédit impôt recherche. Plus de 15 000 entreprises en bénéficient sur un peu plus de 20 000 qui le demandent. La différence, c'est quoi, Germaine Rey? C'est les groupes fiscalement intégrés qui, à partir de plusieurs filiales, font remonter un crédit impôt recherche. Il y a aujourd'hui environ, il y a moins de 100 entreprises qui perçoivent 34%, donc plus du tiers du produit du crédit impôt recherche. Et là aussi, c'est intéressant de noter que le montant du crédit impôt recherche qui a été versé aux grandes entreprises a été multiplié par 6 depuis 2007. Pourquoi par 6? Parce que notamment, il y a une modification en 2008 qui a été particulièrement importante et qui a été largement optimisée. On sait qu'il y a eu un certain nombre de travaux sur la question parlementaire de la Cour des comptes qui disent que, comme de nombreuses niches fiscales, cette niche est coûteuse, que l'efficacité est non avérée. Alors, quand la Cour des comptes dit que l'efficacité est non avérée, il faut traduire ça en efficacité absolument pas démontrée. Il faut un peu durcir les mots. Les risques d'optimisation et de fraude, j'y reviendrai, ils ont été largement pointés. Et ce qu'on peut noter, c'est que pendant un certain temps, il y a eu des travaux qui n'ont donné lieu à aucune suite. Et François Hollande et Pierre Moscovici avaient dit assez tôt dans leur mandat qu'ils ne toucheraient plus au crédit impôt recherche et qu'ils ne voulaient pas que ce crédit impôt recherche soit contrôlé. Rappelez-vous, Pierre Moscovici, en 2013, deux, trois mois après l'affaire Cahuzac, je crois, disait le crédit impôt compétitivité emploi et le crédit impôt recherche ne doivent pas faire l'objet de contrôle. J'y reviendrai sur la réalité du contrôle, mais ça montre qu'il y a une volonté politique, non seulement de préserver le crédit impôt recherche, mais éventuellement même, comment dire, de préserver tout ce qui est incitation fiscale dont l'objectif, l'efficacité, n'a pas été démontrée. C'est pour ça que c'est particulièrement important qu'il y ait un travail parlementaire dans la période, parce que c'est une des rares occasions que l'on peut avoir pour se faire entendre et révéler au grand jour un certain nombre de pratiques et de dysfonctionnements et d'enjeux. Parce que c'est l'enjeu majeur, et il y a une sensibilité de l'opinion sur tous les enjeux fiscaux, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le ras-le-bol fiscal, qui est également un ras-le-bol des injustices fiscales, parce qu'il y a des révélations en termes de fraude fiscale, d'optimisation, et donc c'est une opportunité, on peut le dire comme ça, même si le terme peut paraître un peu cynique, pour dire, ben voilà, il y a des enjeux, notamment en matière de crédit impôt recherche. Alors je vais articuler le propos autour de deux thèmes. L'assiette du crédit impôt recherche, en quoi l'assiette peut être qualifiée de permissive, c'est un terme qu'on a employé dans notre rapport de 2010. Et deuxièmement, la question du contrôle. Puis on chutera sur quelques pistes de réflexion, voire des propositions. Alors on rappellera que les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche, des entreprises de toute taille, à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, que les dépenses éligibles au crédit impôt recherche, c'est intéressant de s'y attarder un moment, puisque c'est justement à partir de ces dépenses que se construisent les mécanismes d'optimisation, voire de fraude. On a évidemment les dépenses de personnel, mais avec une conception assez large des dépenses de personnel, et puis un pourcentage élevé de ce qui est retenu. Alors évidemment, les chercheurs, les techniciens de recherche, les doctorants, etc. Lorsqu'on regarde, nous, la question des dépenses de personnel, on voit toutes les difficultés qu'il y a pratiquement pour nous, vérificateurs, mais aussi pour les agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de qualifier les dépenses de personnel éligibles. Et on s'aperçoit, nous, par exemple, ça a été dit tout à l'heure, qu'un certain nombre de salariés sont parfois abusivement qualifiés comme étant, par exemple, des techniciens de recherche, alors qu'ils ne sont, par exemple, que des personnels de soutien qui, normalement, ne rentrent pas dans les dépenses éligibles. Donc, ne serait-ce que sur ce point, c'est une des voies offertes à l'optimisation. Et comme les dépenses de personnel représentent la moitié des dépenses éligibles au crédit impôt recherche, on voit qu'on a déjà là un biais pour les entreprises, un biais parfois employé légalement, parfois d'une manière tout à fait illégale, pour gonfler l'assiette du crédit impôt recherche et, in fine, pour gonfler le crédit impôt recherche. On a des dépenses de recherche externalisées, avec soi-disant une incitation à l'externalisation vers la sphère publique, puisque les plafonds sont un peu plus élevés. Enfin, se pose la question, évidemment, du renversement de tendance qu'il y a. On voit bien que la recherche privée, aujourd'hui, sous-traite à l'action publique, ce qui est quelque chose de, en soi, j'allais dire, de manière, sur le plan des principes, assez étonnant. On a les frais de brevet, des dépenses de normalisation. On a également les dotations aux amortissements qui sont déjà déductibles de l'impôt sur les sociétés, mais qui rentrent dans l'assiette des dépenses éligibles au crédit impôt recherche. Un certain nombre de dépenses de fonctionnement, par exemple, sur les dépenses de fonctionnement, on a pu observer que des dépenses qui n'avaient absolument rien à voir avec un projet rentraient dans l'assiette du crédit impôt recherche. Tout cela est plafonné. Le plafond, c'est 100 millions d'euros sur lequel on applique un taux de 30%, mais j'y reviendrai, là aussi il y a des voies de détournement possibles. Là aussi, la réforme de 2008 a été particulièrement importante, puisque avec une telle assiette, elle a offert légalement la possibilité, je vais le dire vulgairement, de se goinfrer du crédit impôt recherche pour un certain nombre d'entreprises. Alors quels sont les risques que cette assiette présente à partir du moment où on le voit, les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement représentent les trois quarts, la moitié pour les dépenses de personnel, un quart pour les dépenses de fonctionnement. On a déjà des risques, je disais, liés aux dépenses elles-mêmes. Nous avons observé, nous, donc, des requalifications abusives de personnel qui rentraient dans l'assiette du crédit impôt recherche alors qu'ils ne devaient pas l'être. Nous avons observé qu'il y avait des dépenses commerciales, on peut le dire comme ça, ou des dépenses internes à l'entreprise, par exemple des séminaires sur la stratégie de l'entreprise qui rentraient dans l'assiette du crédit impôt recherche. Nous observons également que les groupes de sociétés fiscalement intégrés, alors je m'attarde un instant sur ce que c'est qu'un groupe fiscalement intégré, c'est lorsque une maison mère détient au moins 95% de participation d'une autre entreprise et lorsque ce groupe-là assoit ses résultats au niveau de la maison mère, eh bien les groupes soit se restructurent, soit bénéficient de leur structuration préexistante pour faire remonter au stade de la maison mère les crédits impôt recherche de ces différentes filiales. De telle sorte, le plafond de 100 millions, qui est la limite de chacune des filiales, au stade du groupe est largement dépassé. Ce qui explique notamment l'envolée du coût et notamment l'envolée du remboursement attribué à certaines entreprises, notamment depuis 2007, ce que je disais tout à l'heure. Nous avons observé également que comme il n'y a pas d'obligation de loger, par exemple, le brevet en France, il y avait des mécanismes d'optimisation. D'optimisation comment ? Eh bien, c'est simple. Un groupe qui aurait éventuellement même optimisé au travers de ses filiales le crédit impôt recherche va loger le brevet dans une de ses filiales située à l'étranger, comme par hasard dans un état fiscalement privilégié, et va verser des redevances à cette filiale-là. Ce qui fait que dans un premier temps, il a bénéficié du crédit impôt recherche, dans un deuxième temps, il va déduire les redevances de ce qui va être du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. On observe également qu'il y a des risques de cumul, j'y reviendrai, avec le fameux crédit impôt compétitivité emploi. Pourquoi ? Parce que les dépenses de personnel qui rentrent dans le crédit impôt compétitivité emploi peuvent être communes avec les dépenses de personnel qui donnent lieu à un crédit impôt recherche. Je rappelle juste que le crédit impôt compétitivité emploi, c'est 6% sur la masse salariale sur les salaires inférieurs à 2,5 le SMIC. On peut avoir des salaires comptés deux fois pour le crédit impôt compétitivité emploi et pour le crédit impôt recherche. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir un bilan sur cette question-là. Tout ce que je vous dis là est assez légal, malheureusement. Donc ça a été voulu. C'est bien le problème. Donc se pose la question de la réalité du crédit impôt recherche au travers de cette assiette-là et aussi la manière dont il est vendu à l'extérieur. Parce qu'en interne, on nous dit c'est pour la recherche, sans que ce soit d'ailleurs démontré, on le sait tous. À l'extérieur, lorsque vous allez voir le site de l'Agence française des investissements internationaux, qui vient d'être rebaptisé, on vante le dispositif fiscal le plus attractif du monde. Voilà. Donc on n'est plus sur la recherche, on est tout simplement sur l'attractivité fiscale. Ce qui est intéressant au passage, parce que comme on entend beaucoup en interne que l'impôt sur les sociétés est un des plus lourds impôts dans les pays de l'OCDE, dans les pays européens, parce que le taux lui-même est très élevé, et puis s'ajoutent des surcontributions. Quand on regarde la réalité de l'imposition des grands groupes, ça a été démontré par la Cour des comptes, le Conseil des prélèvements obligatoires, à peu près tous les travaux sérieux sur le sujet, on sait que les taux effectifs d'imposition, c'est-à-dire l'impôt ramené aux bénéfices, sont bien inférieurs, qu'ils se situent, alors selon les études, aux alentours de 8-15% pour les grands groupes, mais qu'ils sont supérieurs pour les PME. Et pourquoi ils se situent à ce niveau-là ? Parce que il y a le taux facial et puis il y a la réalité de l'imposition. La réalité d'imposition, lorsqu'on tient compte des mécanismes dérogatoires comme le crédit impôt recherche, il vient baisser singulièrement le taux d'imposition des sociétés, le taux réel d'imposition. Donc le crédit impôt recherche participe de ça et en réalité dans la concurrence fiscale internationale, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation par exemple au niveau de l'Union européenne, eh bien on sait que le crédit impôt recherche est un produit fiscal vanté pour son attractivité, point barre. C'est la réalité. En tout cas, telle qu'elle est vendue à l'extérieur. Face à une assiette, je le disais aussi permissive, qui permet malheureusement, légalement, de gonfler le crédit impôt recherche, on est, nous, au niveau de la Direction générale des finances publiques, bien mal armés pour contrôler le crédit impôt recherche. Lorsque vous avez une assiette, lorsque vous avez une telle niche fiscale, qui est employée malheureusement dans la plupart des cas légalement, pas légitimement, c'est bien le sujet, pour le contrôler, c'est particulièrement difficile. C'est difficile dans le contexte actuel déjà, parce qu'on observe depuis quelques années une attaque frontale, et je le dis brutale, notamment du MEDEF envers tout ce qui ressemble de projet de loi en contrôle public. C'est vrai pour l'inspection du travail, c'est vrai pour les services fiscaux. Et tout cela est favorisé par les gouvernements successifs. Je le disais, lorsque Moscovici dit « on ne doit pas contrôler tel crédit d'impôt », ça pose un problème parce que le crédit d'impôt, lui, par nature, doit être contrôlé comme n'importe quel élément déclaratif, puisque le contrôle fiscal, c'est la contrepartie du système déclaratif. Donc, on a cette réalité-là. Nous avons ce qu'il y a trop de contrôles fiscaux de manière générale, et spécialement sur le crédit impôt recherche. Les chiffres ne démontrent pas cette réalité, au contraire. On a plus de 4 millions d'entreprises en France. On a 51 000 vérifications, contrôles de la comptabilité. Faites un ratio, c'est ce qu'on appelle un taux de couverture bien faible. On a, sur le crédit impôt recherche, plusieurs types de contrôles. On a le contrôle sur place, le contrôle sur pièce. Et c'est là que le MEDEF mélange habilement les choses. C'est que lorsqu'il dépose une déclaration pour bénéficier d'un crédit impôt recherche, il nous arrive de lui envoyer des courriers pour demander, pas au MEDEF, lorsqu'une entreprise, de lui envoyer des courriers pour qu'il présente telle ou telle pièce complémentaire. Et là, tout de suite, c'est haro, attention, on me contrôle, c'est horrible. Non, c'est un contrôle purement formel pour tout simplement avoir toutes les pièces du dossier. Et s'agissant du crédit, du crédit impôt recherche et du contrôle réel sur place, je le disais, il est epsilon. Alors, c'est très difficile à détailler parce qu'il y a malheureusement manque de statistiques. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'administration fiscale ne fait pas de contrôle particulier du crédit impôt recherche. L'administration s'est dotée de ce qu'on appelle une grille d'analyse risque pour voir s'il y a des comportements à risque pour éventuellement orienter le contrôle fiscal. Mais là aussi, dans le climat actuel, il faut avoir un dossier solide pour envoyer en programmation du contrôle fiscal un dossier sur le crédit impôt recherche. Alors aujourd'hui, les chiffres d'ailleurs le montrent, c'est que les montants des redressements fiscaux sur le crédit impôt recherche est assez faible. Les statistiques disponibles s'arrêtent en 2011, mais on est à des montants inférieurs à 300-350 millions d'euros par an. À ramener à 6 milliards d'euros, on voit que la proportion de redressement est au fond assez faible. Et pourquoi c'est faible? Parce que c'est un contrôle complexe à mettre en œuvre. Il fait intervenir l'administration fiscale, mais également le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, en lien avec les délégations régionales à la recherche et à la technologie, en lien également avec les directs. Et donc c'est un contrôle lourd à mettre en place. C'est lourd à mettre en place pour plusieurs raisons. Déjà, il faut partir de la réalité des vérificateurs. Aujourd'hui, un vérificateur de l'administration fiscale doit rendre entre 12 et 14 dossiers par an. Lorsqu'il met en œuvre une assistance administrative internationale, par exemple, ou lorsqu'il veut saisir les délégations régionales à la recherche et à la technologie, il n'y est pas réellement incité du fait de ses objectifs très contraignants. Ça veut dire que, quelque part, il doit être sûr de son coût, mais ça veut dire aussi que sur certains dossiers, il laisse tomber. C'est une réalité, et une réalité que l'on peut aisément démontrer. Mais admettons qu'il s'adresse et qu'il demande une expertise à la délégation régionale.